Il est 23h à Paris, 21h, temps universel et CRFI que vous écoutez.
Mathis Limano.
À peine suspendu, de nouveau maintenu aux États-Unis, une cour d'appel vient de maintenir temporairement les droits de douane décrétés par Donald Trump. Nouveau rebondissement moins de 24 heures après qu'ils aient été suspendus en première instance. Une proposition qui ne répond pas aux demandes du peuple palestinien. Le Hamas annonce rejeter la proposition de trêve des États-Unis. Elle avait été acceptée par le gouvernement israélien. À suivre aussi les négociations à venir entre Russes et Ukrainiens. Kiev a accepté de nouveaux pourparlers qui doivent se tenir lundi à Istanbul. Et puis Gaël Monfils dans le dur à Roland-Garros. À 38 ans, le vétéran du tennis français est mené 2-7-1 par le Britannique Jack Draper. On est en direct du cours Philippe Châtrier en fin d'édition. Les droits de douane de Donald Trump maintenus temporairement par la justice américaine moins de 24 heures après avoir été bloqués en première instance. Les surtaxes du président américain viennent donc d'être maintenues par une cour d'appel. Le temps, disent les juges, de se prononcer sur le fond du dossier. Bonsoir Théo Conscience.
Bonsoir à tous.
Théo, on assiste là à un énième rebondissement dans le feuilleton de la guerre commerciale de Donald Trump.
Oui, et quand ce n'est pas le président américain lui-même qui fait volte-face, c'est la justice. Hier, l'ITC, le tribunal de commerce international des États-Unis, avait estimé qu'avec ses surtaxes, le président américain avait outrepassé ses pouvoirs en s'arrogeant des prérogatives réservées au Congrès. Le tribunal avait donc bloqué les droits de douane imposés au Canada, au Mexique et à la Chine, mais aussi les droits de douane réciproques, annoncés en grande pompe par Donald Trump lors de la journée de la libération en avril. Ces derniers avaient cependant été repoussés à début juillet sous la pression des marchés financiers. Hier, la décision de l'ITC avait été saluée par la Chine et le Canada, mais elle avait aussi déclenché la colère de la Maison Blanche qui avait immédiatement déposé un recours. Tout à l'heure, une cour d'appel a accédé à la demande du gouvernement américain et décidé de lui accorder le bénéfice du doute en maintenant temporairement ses surtaxes, le temps, vous l'avez dit, de se prononcer sur le fond. Un nouvel épisode dans cette saga des droits de douane à laquelle les marchés financiers semblent désormais être habitués puisque la bourse de New York s'est affranchie de ses rebondissements pour terminer en hausse tout à l'heure.
Merci Théo Conscience, service international de RFI. L'actualité au Proche-Orient à présent, alors que les négociations se poursuivent et qu'un arrêt des combats semblait se dessiner à Gaza, Israël a accepté une proposition de cesser le feu formulée par les États-Unis. Le Hamas rejette cette proposition, justifiant qu'elle ne répond à aucune des demandes du peuple palestinien, notamment l'arrêt de la guerre et de la famine dans l'enclave. Parallèlement, des pays continuent de mettre la pression sur Israël. À l'image de l'Irlande, Dublin vient de présenter un projet de loi inédit dans l'Union européenne. Il interdirait l'importation de marchandises en provenance des colonies israéliennes de Cisjordanie occupée, territoire où Israël a annoncé étendre massivement son entreprise de colonisation. Clémence Pénard.
Aujourd'hui, l'interdiction ne concernerait qu'une poignée de produits en provenance des territoires occupés. Quelques oranges, dattes et olives, déplore l'avocat Gary Daly.
Ils vont prétendre avoir adopté la loi sur les territoires occupés, mais en réalité, elle sera vide de sens et inefficace. Ce n'est qu'un compromis bancal, mais acceptable pour les Américains et les Israéliens.
Une mesure symbolique, donc, mais qui ferait tout de même de l'Irlande le premier pays européen à restreindre le commerce avec les colonies israéliennes. Simon Harris, ministre irlandais des Affaires étrangères.
C'est une mesure modeste mais essentielle pour accentuer la pression en faveur d'un cessez-le-feu, car l'ampleur de la catastrophe humanitaire est presque inimaginable et constitue un crime de guerre évident. Si l'Irlande, ce petit état d'Europe, devient l'un des tout premiers pays à légiférer en ce sens, j'espère que cela inspirera d'autres pays européens à nous rejoindre.
Car seule une action collective de l'Union européenne aurait un véritable poids. En attendant, l'Irlande entend montrer l'exemple. Clémence Pénard, Dublin. RFI.
La défense civile de la bande de Gaza dénombre 44 nouvelles victimes des bombardements ce jeudi, tandis que le dernier hôpital du nord de l'enclave, encore en fonctionnement, fait savoir que l'armée israélienne a procédé à l'évacuation forcée des patients et du personnel médical de l'hôpital Al-Ahda. Israël inflige une punition collective à la population de Gaza, a dénoncé Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe. Israël et la Syrie appelés à dialoguer ensemble, c'est l'appel lancé par les commissaire américain Thomas Barak. Il est arrivé ce jeudi à Damas. Un dialogue avec Tel Aviv qui commencerait par un pacte de non-agression alors que l'État hébreu a mené des centaines de frappes en Syrie depuis l'arrivée des islamistes au pouvoir. L'armée israélienne qui frappe aussi le sud du Liban. Deux hommes présentés comme des membres du Hezbollah ont été tués dans la région de Nabatieh. L'armée israélienne continue de viser régulièrement des cibles qu'elle considère comme appartenant à la milice libanaise, et ce malgré le cessez-le-feu conclu il y a 6 mois entre les deux belligérants. RFI minuit 5 à Kiev et Moscou. L'Ukraine dit oui à de nouvelles négociations directes lundi à Istanbul, mais veut avoir accès en amont au mémorandum de paix de la Russie et exhorte Moscou à une discussion constructive. En attendant, les relations entre Vladimir Poutine et Donald Trump se tendent. Le président américain est en surcharge émotionnelle d'après le Kremlin après qu'il ait traité Vladimir Poutine de fou, accusant son homologue russe de jouer avec le feu. Donald Trump, qui s'impatiente, lui qui avait promis de régler le conflit en 24 heures. Mais pour le spécialiste Cyril Brett, cette passe d'armes entre les deux dirigeants sera vite oubliée dès la première poignée de main.
La Russie, par ce type de réponse, qui paraît ironique, montre à Donald Trump qu'elle fait bien la part entre la rodomontade destinée à l'impressionner et le fond du dossier. Les deux leaders vont finir par se rencontrer, et quand ils se rencontreront, eh bien, toutes les rumeurs ou toutes les expressions indirectes s'effaceront devant ce qu'ils concluront. N'oublions pas, dans l'art du deal de Donald Trump, il y a évidemment le bruit et la fureur, la confusion instillée volontairement, et la Russie a voulu bien signifier qu'il n'était pas dupe de cette expression du président américain sur X.
Et pendant ce temps, Moscou continue de grappiller du terrain et revendique la prise de 3 villages dans les régions de Kharkiv et de Donetsk. Au Portugal, le Premier ministre sortant garde son siège. Luis Montenegro de l'Alliance de centre-droit a été reconduit par le président portugais. Sa formation est arrivée en tête des législatives anticipées sans toutefois obtenir la majorité absolue au Parlement. Luis Montenegro devra donc composer avec l'extrême droite, le parti Chega, devenu première force d'opposition du Portugal. Direction à présent la Porte d'Auteuil à Paris. RFI continue de vous faire vivre le tournoi de Roland-Garros, et le match de la soirée oppose Gaël Monfils au 5e mondial Jack Draper. Bonsoir Eric Mamrut.
Bonsoir Mathis, bonsoir tout le monde.
Eric, on joue le 4e set sur le court Philippe Châtrier et c'est le Britannique qui mène la danse.
Effectivement, mais c'est un sacré bras de fer entre les deux hommes. Dire qu'il y a 15 ans d'écart entre Jack Draper, 5e mondial, et qui se révèle depuis peu sur le circuit, et Gaël Monfils, l'ancien, le vétéran, qui avait été demi-finaliste ici même en 2008. Ça commence à dater. Il court toujours, même si il transpire beaucoup, il commence un petit peu à fatiguer. Il est vrai que son adversaire britannique, eh bien, lui envoie beaucoup, beaucoup d'amortis pour le faire courir encore plus. C'est Jack Draper qui mène 2 manches à 1, 6-3 dans la première manche, comme dans la troisième. La deuxième manche a été remportée par le Français 6-4, qui a breaké il y a quelques instants pour mener 4-2. Il vient de sauver une première balle de débreak, car là, on sent qu'il a un petit coup de moins bien physique, le Français qui prend tout son temps pour servir. Vous entendez le rôle du public, évidemment, qui adore être là en soirée et voir l'un de ses chouchous, Gaël Monfils, qui est tellement généreux dans l'effort, dans le spectacle. Il sourit, il joue avec le public français, il harangue là encore, et le public il demande que ça, évidemment, il suit. Allez-y, soutenez-moi, parce que c'est dur, là, j'en peux plus, et il faut gagner du temps un petit peu. Ça marche, il égalise à 40 partout et peut-être il se dirige vers le gain de la 4e manche et on aura peut-être droit encore à un 5e set, comme il y a quelques jours au premier tour, il avait renversé la situation face à Hugo Delieng. Le show, mon fils, donc continue ce soir, encore du suspense sur le court central Philippe Châtrier, même si là il fait une double faute, mais c'est du mon fils, c'est du mon fils.
Merci Eric Mamrut, en direct du court Philippe Châtrier. On vous tiendra bien sûr informé du résultat de la rencontre dans nos prochaines éditions. Et l'adversaire de Jack Draper ou de Gaël Monfils au prochain tour est déjà connu. João Fonseca, la sensation brésilienne de 18 ans qui s'est hissée au troisième tour aux dépens du français Pierre-Hugues Herbert. Et puis ce jeudi à Roland-Garros, ça a aussi été marqué par un hommage à un monument du tennis tricolore, Richard Gasquet, qui tire sa référence après son dernier match en carrière perdu contre Yannick Sinner.